France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Le 3 décembre dernier, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a présenté une révision de sa stratégie polaire adoptée en 2022. Intitulée « Équilibrer les extrêmes à l'horizon 2040 », ce rapport d'une quarantaine de pages rédigé par Olivier Poivre d'Arvor propose de penser conjointement l'action diplomatique française en Arctique et en Antarctique. Il s'articule autour de trois axes, environnemental, géostratégique, scientifique. Mais quelle est la légitimité de la France à s'intéresser à intervenir même dans les pôles? Que risque-t-elle à penser conjointement l'Antarctique et l'Arctique? La France a-t-elle les moyens de ses ambitions polaires? Deux invités ce soir pour en discuter, pour en débattre même. Alexandre Tête, bonsoir.
Bonjour, Quentin Laffey.
Vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique et coordinateur de l'Observatoire de l'Arctique. Avec nous et à distance depuis les pôles même, Olivier Poivre d'Arvor, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain et diplomate, ambassadeur pour les pôles et enjeux maritimes au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous êtes par ailleurs, on le souligne, ancien directeur de France Culture. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
Bien, vous savez que pendant toute ma vie, j'ai parcouru le Sahara. Donc je suis un habitué des peuples nomades. Après, j'ai été voir les peuples nomades en Laponie. Et maintenant, je voulais voir les derniers peuples qui vivent encore de leur chasse, c'est-à-dire les peuples chasseurs, la première forme de la civilisation humaine. Et pour cela, il fallait aller dans le Grand Nord canadien, qui est certainement des régions arctiques, la région la moins parcourue. Sous le soleil de minuit, j'ai découvert une communauté d'esquimaux réfractaires de 20 à 30 individus qui venaient d'hiverner. C'était quand même au mois d'avril, c'est encore l'hiver là-haut, c'était sous le 76e parallèle. Avec les femmes, les enfants et les gosses. Des images merveilleuses, c'est les images de Jack London. Nous avons chassé l'ours avec les Esquimaux, nous avons vécu sous leurs igloos d'hivernage, nous avons traqué les bœufs musqués. Deux mois et demi à moins 40 à peu près. Enfin, on a fait 2000 km en traîneau à chien dans les glaces de l'Arctique et je vous avoue que même pour des chamoniards comme Pierre Terrasse et moi, ça a été très dur.
La voix superbe de Roger Frison-Roche, c'était en 1967 et avant d'entrer de plein pied dans le débat, je voulais vous demander quel était votre rapport au pôle, votre rapport à cet espace qui est devenu votre espace de travail. S'agit-il d'un rapport d'émerveillement, de fascination, Olivier Poivre d'Arvor, ou bien au fond c'est devenu un espace de travail presque comme un autre?
C'est impossible que ça soit un travail comme un autre parce qu'on peut pas le faire si on n'a pas les moyens de le faire pour aller en Antarctique où j'ai passé trois séjours assez longs de plusieurs semaines, pareil en Arctique dont je m'approche là actuellement, et donc c'est vraiment un rapport d'aimantation et d'aimant. Ces pôles sont deux aimants. Ils sont très différents, mais je suis tombé sous le charme de ces aimants-là.
Vous êtes aimanté également, Alexandre Tête. Vous demeurez aimanté?
Bien sûr, c'est à la fois de l'émerveillement et un sentiment de fragilité. En Antarctique, vous avez devant vous des paysages absolument sidérants, avec des reliefs qui sortent de l'eau jusqu'à 1500, 1700 mètres et des quantités d'eau sous forme de glace de manière impressionnante. Et en même temps, vous savez, grâce aux études qui sont publiées, que ces volumes d'eau gigantesques sont en train de disparaître extrêmement rapidement. C'est fragile. Et puis le Grand Nord, c'est une terre de contraste parce qu'il y a vraiment des Arctiques. Il y a des régions de l'Arctique, et puis il y a aussi des populations qui habitent, qui sont dépendantes et qui sont très vulnérables.
Je voudrais qu'on commence par penser justement d'une manière conjointe l'Arctique et l'Antarctique. C'est ce que vous faites, Olivier Poivre d'Arvor, dans cette feuille de route que vous avez dessinée et fait paraître le 3 décembre dernier. Y a-t-il une cohérence à penser ces deux pôles ensemble, à les rapprocher comme vous le faites ?
Oui, il y a une immense cohérence, et même rapprocher peut-être d'un troisième pôle dont je pourrais dire un mot. En fait, quand j'ai pris mes fonctions fin 2020, en succédant à Michel Rocard, Ségolène Royal, je me suis dit que c'était apparemment un portefeuille politique qui avait été confié à des politiques, mais qu'il fallait essayer de ne pas faire de la politique et s'intéresser au fond des sujets. Et le fond du sujet, c'est que penser l'un et l'autre séparément, quand on est un pays et qu'on veut être un pays puissant, ça n'a pas de sens pour une simple raison, c'est que même si nos explorateurs sont allés, pas forcément les premiers, mais ils ont découvert de part et d'autre une partie de ces territoires, les Français, je veux dire, c'est important de bien préciser pour les auditeurs que le pôle Nord et le pôle Sud pour autant qu'ils existent d'ailleurs de cette forme géographique fixée, c'est évidemment des mondes extrêmement différents, mais on a affaire à deux extrêmes qui sont, par les effets du changement climatique, maintenant sont rapprochés par la préoccupation et la pression qu'elles exercent sur l'ensemble du monde, des territoires qui peuvent être des territoires insulaires extrêmement lointains. Dans le fond, Groenland, Antarctique, même combat. D'un côté, c'est 6 mètres d'élévation au niveau de la mer si jamais tout le Groenland fond. Si, par contre, c'est l'Antarctique, ça sera 64 mètres. Donc, ces deux pôles-là, qui ont fasciné pendant des siècles et qui étaient inaccessibles, qui paraissaient vraiment à l'autre bout du monde, sont devenus aujourd'hui presque une forme de centralité. Et c'est pourquoi j'ai voulu les traiter ensemble. Et le troisième, je vous dirai tout à l'heure, mais c'est les glaciers. Et c'est ce qu'on appelle le troisième pôle, notamment l'Himalaya, l'Hindoukouche.
Cela vous paraît cohérent, Alexandre Tête, d'aborder deux fronts, ces deux extrêmes, pôle Nord et pôle Sud, même combat, comme disait Olivier Poivre d'Arvor?
En fait, il y a deux sujets, c'est-à-dire que sur le plan de l'environnement, bien sûr qu'il y a une complémentarité. Monsieur Poivre d'Arvor évoque en fait la cryosphère avec toutes les formes solides que peut avoir l'eau, que ce soit les glaciers continentaux, la glace de mer ou la neige. Et donc évidemment, là, il y a des dynamiques communes. On voit que les deux pôles en fait sont très touchés par le changement climatique. Et après, effectivement, il y a la question dont on pourra discuter, c'est est-ce que c'est un objet identique qu'il faut rapprocher en sachant qu'il y a un contexte géopolitique extrêmement différent au pôle Nord et au pôle Sud.
C'est la question que je me posais aussi en vous écoutant, Olivier Poivre d'Arvor. La cohérence environnementale, on la perçoit bien, vous la décrivez d'ailleurs parfaitement, mais du point de vue géopolitique, est-ce que ces deux espaces ont beaucoup en commun, pôle Nord et pôle Sud?
Oui, en ce que les grandes puissances se les approprient ou se les déchirent, et que dans le fond, ce qui se passe en Arctique annonce ce qui va se passer, ce qui se passera probablement d'ici une vingtaine d'années en Antarctique, c'est-à-dire une forme de prédation par 3-4 grandes puissances. En tout cas, on est à peu près assuré que la Chine, la Russie et les États-Unis seront au rendez-vous, comme ils le sont déjà en Arctique. Dans le fond, ce qui aujourd'hui agite au sens le plus trivial du terme l'opinion publique et qui fait qu'il y a une conscience de ce réchauffement climatique, des urgences, de l'importance des pôles, et c'est tant mieux. C'est plus forcément la vision de l'ours blanc qui dériverait sur son morceau de calotte glaciaire. C'est véritablement le fait que la guerre n'est pas si loin que cela de nous. C'est une guerre des ressources, c'est une guerre des fossiles, c'est une guerre du transport maritime. Et tout cela pourra assez facilement, et il suffit de réfléchir un tout petit peu, et ayant beaucoup passé de temps avec Michel Rocard, qui m'a donné envie de un jour d'occuper cette fonction, il avait perçu ça aussi très bien, puisque lui, quand il était Premier ministre, il avait réussi à mettre en place ce qu'on appelle le protocole de Madrid, qui protège en gros le traité de l'Antarctique et qui fait que cette région est une région dédiée à la paix et à la science. Parce que la menace à l'époque, c'était une menace d'exploitation minière et donc de transformation de nouveau de ce paysage. Donc, les mêmes histoires qui se passent aujourd'hui en Arctique se passeront probablement dans 20-25 ans avec les mêmes acteurs en Antarctique, la grande différence étant les populations qui évidemment se trouvent aujourd'hui uniquement dans la partie nord, dans l'espace arctique.
Vous êtes d'accord, Alexandre Tête? Au fond, ce qu'on observe aujourd'hui en Arctique, c'est un laboratoire de ce qui se passera en Antarctique dans un quart de siècle?
Alors, d'abord, j'espère que ce qui se passe actuellement en Arctique, où le conflit ukrainien a des répercussions directes sur l'activité militaire dans l'espace arctique, ne sera qu'une parenthèse. J'espère qu'on trouvera à nouveau une voie de coopération qui a été quand même ce qui a caractérisé l'Arctique depuis la création du Conseil de l'Arctique, maintenant il y a plus d'une trentaine d'années. Alors après, j'ai envie de dire que les conditions naturelles du pôle Sud le protègent, à mon avis, quand même d'une exploitation à tout craint. C'est-à-dire que ça reste un espace quasiment impossible d'accès par la mer pendant plusieurs mois par an, y compris avec des brise-glaces extrêmement puissants. Il y a quelques endroits qui sont accessibles par avion, mais en fait qui sont faits à la limite du cercle polaire, qui sont pas si au sud que ça finalement.
Donc la prédation vous semble impossible?
Alors, en tout cas, elle pourrait être saisonnière, mais En fait, c'est tellement cher et compliqué d'aller en Antarctique exploiter durablement en espérant être rentable que j'espère qu'au moins au-delà des 20 ans évoqués par M. Poivre d'Arvor, il y aura une sorte de moratoire technique. Ce sera trop compliqué. Maintenant, limite, ce que je crains, plus peut-être même que les États-Unis ou la Chine, c'est que des initiatives de richissimes hommes qui sont omnibilés par la technologie comprennent que c'est plus facile d'aller en Antarctique que sur Mars, sans doute, et que là, il brise un petit peu ce consensus très fragile qui a été évoqué à l'instant de coopération et de protection de l'exploitation, et ouvre la voie, en fait, à d'autres pays.
On va revenir évidemment sur le détail de tous ces enjeux géostratégiques, mais une question au préalable, une chose qu'il faut nous expliquer, Olivier Poivre d'Arvor, quelle est la légitimité de la France de s'intéresser au pôle et même d'y intervenir alors que la France, par exemple, est dépourvue de territoire arctique ?
Oui, alors on peut toujours dire que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est du subarctique. D'abord, si on veut parler que de la partie arctique, en effet, c'est tout près de chez nous. La preuve, je suis parti ce matin pour rejoindre Helsinki et je m'approche du golfe de Finlande, donc et je vais retrouver la station Tara, la station dérivante Tara. Donc c'est l'Europe, l'ensemble des pays du Conseil de l'Arctique dont parlait Alexandre est aujourd'hui quand même en demi-sommeil. Il se réunit pas, la Russie. N'en est pas un acteur reconnu, en tout cas reconnu, elle l'est, mais elle n'est pas présente. Et les États-Unis sont ce que vous savez qu'ils sont aujourd'hui. Donc les restes, c'est l'Europe, c'est les pays européens, c'est la Suède, c'est la Finlande, c'est l'espace européen avec la Norvège, c'est le Danemark, c'est l'Islande aussi, l'espace européen. Donc, et quand on est allé il n'y a pas très longtemps avec le président de la République au Groenland, c'était pas pour porter une voix uniquement française, même s'il y avait légitimité. La cabane de Paul-Émile Victor et Dieu sait si les recherches au Groenland et d'autres... Mallory ont été importantes, mais nous sommes venus porter une voix qui était une voix européenne. Donc ça se passe dans un espace qui est européen, où il y a encore peu, nos entreprises avaient des intérêts. Donc on a cette légitimité, à la fois historique et à la fois évidemment géopolitique, que nous donne l'Arctique. Après, on a aussi, tous les pays du monde ont une légitimité à s'intéresser à ces sujets, par le fait du réchauffement climatique. Et pour certains, c'est le cas chez nous, par la dimension scientifique, car nos scientifiques, il faut parler d'eux et d'eux et d'eux et encore d'eux, parce que c'est eux qui sont en danger, en quelque sorte aussi. Et quant à l'Antarctique, comme vous le savez, Dumont d'Urville, en 1840, a reconnu une terre qui s'appelait la Terre Adélie, et nous avons, nous, Français, au moment de la discussion sur le traité de l'Antarctique, qui est le vrai sujet. Le rendez-vous du traité de l'Antarctique, c'est 2048. Ce traité peut être revu s'il y a une majorité de pays qui le souhaitent. Ce traité protège cette terre qui paraît aujourd'hui protégée. Elle est en vérité très peu. Moi, il y a 4 ans ou 3 ans, quand j'ai pris mes fonctions, on me disait jamais aucun bateau ne passera, aucun porte-conteneur ne passera par la route arctique, la route du Nord. C'est le cas depuis cet été. Tout va très vite. Les hommes d'affaires, ils sont déjà en Antarctique. Monsieur Musk a équipé de son réseau Starlink tout l'Antarctique, donc l'Antarctique est accessible. Mais quand les pays, et c'est pour ça que la France est une puissance d'équilibre, nous avons la capacité, je pense, en étant à la fois des grands pays polaires, ayant des bases à la fois en Arctique, mais aussi en Antarctique, ayant une légitimité dans la construction du traité de l'Antarctique. Nous sommes un des rares pays d'équilibre qui avons à la fois ce double regard, Nord-Sud, et puis la capacité d'annoncer, pour prévenir, j'espère. Mais je ne veux pas trop espérer dans ce domaine. Je pense que tout ce qui a été montré ces dernières années est vraiment au-delà de ce qu'on avait pu imaginer. Donc, je préfère qu'on ait une vision, pour moi, objective quand on parle de ces sujets.
Je reviens un instant, Alexandre Autet, sur cette question de la légitimité, surtout sur cette légitimité d'intervenir en Arctique, au pôle Nord. Est-ce qu'il y a une légitimité française, selon vous, ou bien c'est une légitimité universelle, comme le disait Olivier Poivre d'Arvor? Au fond, tous les pays du monde ont intérêt à s'intéresser à l'Arctique, puisque c'est un sujet, au fond, qui touche l'ensemble du globe.
Au pôle Sud, la France a une légitimité incontestable. effectivement, parce que c'est un des États positionnés, c'est celle qui a participé avec 12 autres États en 1959 à la signature du traité sur l'Antarctique, parce qu'on a des territoires subantarctiques.
La France y est implantée.
Y est implantée, on a des chercheurs, on a aussi une expérience logistique très importante à travers l'Institut polaire français, qui est un vrai savoir-faire dans cet endroit-là, qui est en plus renforcé par le fait que la France est reconnue comme un acteur très protecteur de l'environnement dans cette partie du Sud. Elle s'appuie sur cette légitimité pour renforcer une légitimité au Grand Nord qui est moins évidente parce qu'on n'est pas directement possessionné. Alors après, effectivement, ça ne veut pas dire qu'on n'y est pas indésirable ou qu'on n'y a pas des choses à faire, notamment par exemple par la recherche, puisqu'on participe en fait à une petite ville scientifique qui s'appelle New Lensen, où on a un pavillon, il y a un pavillon estival également. Et puis ensuite, il y a la question de la sécurité qui est rentrée dans le débat, puisque avec l'OTAN aujourd'hui qui est devenu le premier acteur sécuritaire du Grand Nord avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède, en fait, la France devient un acteur encore plus légitime puisqu'elle fait partie de l'OTAN et que l'Arctique est devenu un espace de manœuvre depuis 2014 et l'annexion de la Crimée, notamment pour tout ce qui est lutte anti-sous-marine, par exemple.
7 des 8 États arctiques sont membres de l'OTAN actuellement.
Tout à fait. C'est vrai que là, ça a été un petit peu une révolution dans cet espace où les tensions étaient quand même très nettement contenues, où la collaboration prévalait. Et effectivement, moi, j'ai pas très peur de l'ouverture des modes de révision du protocole de Madrid, qui interdit toute forme d'activité autre que la recherche concernant les ressources naturelles, parce qu'en fait, la procédure va être très compliquée. C'est-à-dire qu'il faudra, dans un premier temps, les deux tiers des parties consultatives en 1991, et ensuite, pour que ça rentre en vigueur, l'unanimité, ce qui sera jamais le cas. En revanche, on voit bien qu'un pays comme la Chine, en fait, sape souvent les institutions de gouvernance auxquelles elle n'a pas été à l'origine, et notamment le système onusien, qu'elle propose à un moment donné des alternatives. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, mais c'est aussi vrai pour la Russie, c'est qu'ils sabotent un petit peu le fonctionnement par de la mauvaise foi, par de la recherche qui est parfois instrumentalisée, ou expliquer qu'il n'y a pas assez de recherche, par exemple sur le manchot royal, alors qu'il y a des sujets les plus connus, pour retarder, je vais prendre un exemple, la création de nouvelles aires maritimes protégées.
Emmanuel Macron, président de la République, il s'exprimait depuis le Groenland dans ce déplacement que vous avez mentionné, Olivier Poivre d'Arvor, c'était le 16 juin dernier.
Le Groenland a été replacé au cœur des enjeux géopolitiques dans le contexte actuel et cette vocation pacifique et scientifique de l'Arctique est aujourd'hui menacée. Le territoire autonome du Royaume de Danemark, en raison de son positionnement stratégique au sein de la zone arctique et de ses ressources naturelles, est devenu un espace convoité et l'objet d'ambitions prédatrices. Je veux avant toute chose adresser un message de solidarité européenne et de soutien de la France à l'égard du Danemark, du Groenland et du peuple groenlandais.
Comment caractériser la menace, les menaces géopolitiques, géostratégiques, Olivier Poivre d'Arvor, s'agissant pour commencer de l'Arctique? On a le sentiment qu'il y a désormais, en particulier depuis un an, une triple menace qui concerne cet espace. Menace russe, on la connaît, menace américaine, et notamment les vues de Donald Trump sur le Groenland, et menace chinoise à travers l'usage des routes maritimes.
Il a dit clairement, s'agissant du Groenland, qu'il y avait une menace américaine. Alors, elle a son historique depuis un siècle, cette menace. Mais en même temps, là, elle est réaffirmée régulièrement avec la création d'un poste d'envoyé spécial pour le Groenland par les Américains. Donc, dire qu'ils y arriveront, je ne pense pas, parce que les Groenlandais savent ce qu'ils veulent, et les Danois aussi. Et la solidarité qui s'est manifestée à cette occasion-là, peut-être une forme de résistance. Mais quand même, la menace est très directement exprimée. Donc, je rappelle que le Groenland, c'est 50 000 personnes environ, et il doit y avoir, j'imagine, deux tiers d'électeurs. Donc, 25 à 30 000 personnes votant, ça, dans les circonstances aujourd'hui d'organisation des votes et des élections, peut toujours manipuler. Donc, il y a quand même un risque majeur et c'est ce qu'on a voulu rappeler en allant au Groenland en juin de cette année. Le risque russe, c'est pas un risque d'une certaine manière. Les Russes sont chez eux en Arctique. 17, 15, 16, 17% de leur PIB vient des ressources de l'Arctique. Les énergies fossiles, qui sont pour eux vraiment une ressource essentielle, y compris pour faire la guerre, sont là et sont loin d'être épuisées. Et d'ailleurs intéressent aussi les Américains et intéressent aussi d'autres pays de la région. Donc il n'y a vraiment aucune raison de leur faire le procès de s'intéresser à l'Arctique. La route du Nord, c'est là où les choses vont beaucoup plus vite qu'on imagine. Et je crois que de cette manière, je ne dis pas que notre émission sera dépassée dans quelques mois, mais elle pourrait l'être. Il y a une précipitation évidente, géopolitique, climatique, précipitation aussi de la difficulté pour les scientifiques de travailler ensemble. Et cette précipitation fait probablement que cette route dont on pensait qu'elle ne serait pas utilisable va l'être. Donc les Russes, ils vont la défendre. Donc ça ne va pas être une route pacifique, ça va être une route qui va être contrôlée. Quant aux Chinois, ils se présentent comme un pays quasi-arctic country, un pays quasiment arctique. Évidemment, leur intérêt est économique, il est celui de pouvoir passer par cette route et qui dit qu'il n'y aura pas à un moment donné un bataillon russo-chinois ou sino-russe qui s'occupera de gérer, de sécuriser l'Arctique. En tout cas, notre marine nationale qui est présente pour apporter le sentiment, non pas de la dissuasion, mais du fait que ces territoires sont accessibles à tous, que nous sommes observateurs du Conseil de l'Arctique. Cette place d'observateur, elle est ce qu'elle est, mais elle peut prendre de la place, voilà.
C'est cette route maritime du Nord, Alexandre Tête, qui, selon vous, cristallise effectivement les menaces, les dangers à venir ?
Alors, moi, je ne pense pas. C'est-à-dire que, en fait, la route maritime du Nord, aujourd'hui, elle prend consistance parce que l'Arctique russe est pour la Russie une priorité nationale. C'est là qu'elle va développer ses ressources naturelles, que ce soit déjà aujourd'hui du gaz naturel, que ce soit du pétrole, dans des quantités vraiment très impressionnantes. Et en fait, elle a besoin de domestiquer cette route maritime du Nord pour pouvoir sortir vers l'Asie ou vers l'Europe ses ressources. Bon. Parce qu'aujourd'hui, sur la centaine de navires qui ont emprunté ces deux dernières années la route maritime du Nord, vous n'avez que 12 l'année dernière et 20 cette année, porte-containers. Voilà. À rapprocher avec, je sais pas, Malacca, on doit être à 110 000 bateaux par an. Donc bien sûr que ça ne cesse d'augmenter, mais en fait l'essentiel de ce trafic, c'est la Russie qui sort des ressources de son propre territoire pour le vendre à l'étranger. Et d'ailleurs, on pourrait espérer que dans le futur, soit une espèce de tempérament des tensions, parce que si le détroit de Bering est fermé et si l'Europe est fermée pour des questions de conflits intenses avec la Russie, etc., la Russie ne pourra pas vendre ce qu'elle sort par bateau aujourd'hui. Bon. Ensuite, on voit que la présence militaire chinoise, à mon avis, est quand même une ligne rouge au-delà du détroit de Bering, parce que pour l'instant, il n'y a eu que des exercices conjoints entre Russes et Chinois, donc les Chinois montent en compétence, comme on le fait d'ailleurs dans le nord de l'Atlantique Nord avec notre marine nationale, mais sans doute que les Russes imposeront un accompagnement, quoi, on peut l'espérer. Et ensuite, autre peut-être facteur un peu plus optimiste, c'est-à-dire que les États-Unis et l'URSS à l'époque ont réussi à survivre à la guerre froide avec une frontière maritime commune qui était le détroit de Bering, et que en fait les gardes-côtes des deux pays avaient appris à gérer cette situation d'extrême niveau de tension. Et concernant peut-être le Groenland, c'est vrai que tout le monde a été absolument sidéré de la brutalité des propos et comment un allié pouvait être ainsi maltraité. Et d'autant plus que cette séquence américaine, depuis janvier, on va dire, c'était fin décembre, est apparue inutile parce que les Américains étaient déjà en train de négocier de futures possibilités d'exploitation de ressources, ce qui aujourd'hui est beaucoup plus compliqué. Il a vraiment heurté le sentiment national groenlandais et danois et européen, j'ai envie de dire. Hein. Et aussi sur le plan militaire, en fait, ils ont un accord assez ambigu qui a été réitéré en 2004, qui leur permet en fait d'étendre à volonté leur base de Pitoufik, voire même de créer de nouvelles installations. Donc j'ai envie de dire, ils avaient déjà beaucoup de cordes en main sans froisser ce sentiment national.
Vous décrivez, Olivier, pour avoir une menace montante, des risques de plus en plus grands, notamment dans cette route maritime du Nord. Qu'est-ce que la France prévoit de faire pour contrer cette menace, en tout cas pour s'y préparer ?
Peut-être pour préciser, moi je passe autant de temps dans ces endroits extrêmes qu'aux Nations Unies, à New York. Et on voit bien, y compris aux Nations Unies, qui sont censées être des endroits où on discute, et les guerres dont on parle ne sont pas des guerres classiques, ce sont des guerres de ressources. Donc ces guerres de ressources font que qui sont les leaders d'aujourd'hui ? C'est pas les leaders politiques, c'est pas les chefs d'état-major, ce sont les leaders économiques. Et quand vous avez des pays où les leaders politiques sont en même temps des leaders économiques, ce qui est le cas aujourd'hui. Vous avez avec Poutine un homme qui pense le monde en fonction de l'économie de son pays. C'est logique, mais en l'occurrence, du business, ce qui est quand même pas encore le cas de nos leaders occidentaux, et de la même manière le président chinois ou le président américain. Et donc, j'exclus pas que ces pays se mettent d'accord sur un deal, sur un partage de l'Arctique, qui est un partage qui sera un partage de ressources. Et c'est celui-là qui fera peut-être qu'en Antarctique, en 2048, il y aura une rediscussion. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, là-dedans? Eh bien, on peut, en européen, j'insiste vraiment sur cette dimension, nous pouvons rappeler des règles, les règles du droit, les règles de l'équilibre, les règles du multilatéralisme, même s'il ne s'applique pas directement à ce Conseil de l'Arctique. Et c'est, nous sommes un pays entendu, nous sommes membres du Conseil de sécurité, nous faisons une stratégie polaire, c'est pour ça que le président de la République a souhaité qu'on publie une stratégie polaire, qui est la première, à ma connaissance, en tout cas quand elle a été publiée dans sa première version 2022, à penser les pôles ensemble, et prochainement nous allons penser les trois pôles ensemble, c'est-à-dire la cryosphère et en effet les glaciers. Ça peut paraître idéaliste de vouloir s'intéresser à la fonte de la glace aujourd'hui. Je pense que les conséquences sont telles qu'on s'apercevra très vite que c'est peut-être du pragmatisme.
Alexandre, peut-être une réaction courte, parce que je voudrais qu'on parle également de science et de recherche.
Sur l'aspect économique, bien sûr, c'est-à-dire qu'avant, j'ai envie de dire, l'ère Trump, les questions de ressources se limitaient finalement aux zones sous souveraineté, maritime ou terrestre, et qu'il n'y avait pas vraiment de tensions frontalières. C'est-à-dire que l'arrivée de Trump aujourd'hui remet des tensions entre les États-Unis et le Canada sur la frontière maritime en mer de Beaufort. Il y a l'épisode vraiment un petit peu sidérant du Groenland, et qui est d'ailleurs sans doute porté par des industriels de la tech américaine qui lorgnent sur ces matériaux absolument indispensables à la transition technologique, écologique, etc. Alors, en revanche, effectivement, sur l'aspect compatibilité de la vision française avec le reste du monde, c'est-à-dire que j'entends bien les arguments et le positionnement politique que la France choisit de prendre comme puissance d'équilibre, et en même temps, on voit par exemple que sur un sujet qui peut paraître de consensus, c'était l'appel de Paris pour les glaciers et la cryosphère, en fait, tous les États arctiques du Conseil de l'Arctique se sont abstenus, quoi, n'ont pas signé le texte, ce qui montre que ce rapprochement et ce lien politique et le positionnement français ne va pas forcément de soi. Et en fait, ils veulent pas peut-être qu'un État non-arctique s'impose comme un acteur justement polaire, et que ce soit le Conseil de l'Arctique, alors tout malade qu'il soit aujourd'hui évidemment, qui garde une préséance, on verra dans le futur.
La science et la recherche, donc les scientifiques, où actuellement l'Hexagone est un leader mondial de la recherche polaire. La stratégie que vous avez dessinée, Olivier Poivre d'Arvor, vise la mise en place d'un plan de financement de la recherche de 100 millions d'euros sur 10 ans. Une demande de la communauté scientifique. 100 millions, pourquoi faire ?
Pour s'ajouter à des dépenses qui existent déjà. Aujourd'hui, le financement de la recherche polaire, c'est l'entretien de stations, donc une station franco-allemande au Svalbard, une station franco-italienne au cœur du pôle sud, en Antarctique, et une autre station française du Mont d'Urville, Concordia étant la station avec les Italiens, du Mont d'Urville étant la station que nous avons sur la partie orientale de l'Antarctique. Donc ces stations, évidemment, qui sont ouvertes toute l'année, sont des actions qui impliquent des scientifiques en permanence, des allées-venues, des transports, de la logistique, et donc des investissements très importants, en plus de ceux qui ont été évoqués dans les îles sub-antarctiques, je pense à Kerguelen et les autres îles. Donc il y a déjà un investissement extrêmement important, notamment à travers ce qu'on appelle les terres australes et antarctiques françaises, où les scientifiques viennent documenter ce qui se passe, notamment pour la biodiversité. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, l'Antarctique doit être mieux documentée qu'elle l'est, parce qu'il y a une précipitation qui va et qui vient, mais quand même elle s'affirme d'un réchauffement du continent antarctique. Il faut essayer de savoir ce qui se passe en ce qui concerne les glaciers. Nous sommes globalement, nous Européens, mais aussi les Australiens, les Néo-Zélandais, tous les pays qui sont concernés par l'Antarctique, impatient de pouvoir avoir un vrai programme. Et pour avoir un programme qui ne sera pas un programme français, il faut pouvoir mettre ensemble beaucoup de millions d'euros ou de dollars, comme on veut, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. C'est des programmes qui sont sur 10, 15 ans. Et donc, c'est ces programmes européens que je souhaite qu'on puisse porter. Il faut savoir que pour ce qui est de la science, aujourd'hui, on est quand même dans une situation... Enfin, les scientifiques sont dans une situation très complexe, puisque... notamment en Arctique, ils ne travaillent plus avec les scientifiques russes, avec lesquels ils avaient d'excellentes relations. On a fait beaucoup dans l'histoire polaire avec les Russes. Et nous allons travailler de moins en moins avec les scientifiques américains, pour les raisons qu'on sait, de l'interdiction qu'ils ont de mentionner le moindre effet du changement climatique dans leur rapport. Donc, évidemment. Donc, il y a un isolement de la recherche. C'est pour ça que je plaide vraiment pour cette recherche européenne. Bruxelles peut avoir une stratégie arctique, elle l'a, à vrai dire, mais elle doit pouvoir mettre des financements encore plus importants. Il faut aussi qu'elle ait une stratégie antarctique, et je crois que c'est ce qui est prévu au mois de juin prochain. Normalement, Bruxelles devrait sortir une stratégie polaire qui nous permettra, j'espère, de disposer de toujours beaucoup moins de crédits que ne sont destinés à la recherche spatiale, mais un peu pour documenter le désastre quand même. S'il vous plaît, messieurs les députés et les élus.
Sur l'isolement de la recherche, Alexandre Tête, c'est une chose que vous constatez, une tendance à laquelle vous êtes confronté présentement ?
Ah oui, bien sûr. Écoutez, oui, il y a le cas de séminaires post-Trump, pré-Trump, où des scientifiques se sont exprimés, parlaient de changement climatique, et lorsqu'il faut rendre des papiers quelques mois plus tard, en fait, il y a quasiment de la négation du changement climatique dans les papiers. On passe vraiment d'un extrême à l'autre. Et voilà, moi qui travaille sur les Outre-mer aussi, on voit qu'aujourd'hui, il y a des problèmes sur la projection des ouragans, des cyclones dans toute la partie Atlantique Ouest. Voilà. Alors, effectivement, la question du financement de la recherche aujourd'hui, c'est le cœur de la guerre, parce qu'on a aujourd'hui, avec cette mise à jour la stratégie française, et il y avait déjà le premier document qui était sorti en avril 2022, qui était vraiment dédié presque à la recherche, qui avait montré ce besoin-là. Simplement, l'argent n'est pas venu. Et malgré aussi les annonces faites par Emmanuel Macron, par exemple au One Planet Polar Summit en novembre
2023. 1 milliard d'euros.
Oui, alors c'est une somme, très sincèrement. En fait, même les acteurs polaires n'étaient pas au courant de cette somme quelques jours, et c'est une manière de parler, avant l'événement. Ça a vraiment un petit peu étonné tout le monde, d'autant qu'un travail transpartisan à l'Assemblée nationale avait évalué les besoins entre 2023 et 2030, environ 450 millions d'euros. Donc aujourd'hui, les 100 millions, j'imagine qu'ils viennent d'un rapport de prospective scientifique polaire qui a été rendu l'été dernier, et qui parle de urgent, mais évidemment que ce budget ne permet pas de faire durer l'outil de recherche. M. Pavlavor l'a évoqué avec les infrastructures. En fait,
la rénovation des bases, vous voulez dire ?
Il va falloir rénover, voire reconstruire. On va voir un peu les choix qui vont être faits. Dumont-Durville, qui date de l'année géophysique internationale, c'est-à-dire à la fin des années 50, hein, donc elle date de 55-57.
Et qu'on dit très polluante aujourd'hui.
Alors, polluante parce qu'elle est dépassée, elle a plus de 60 ans. Concordia, qui va avoir ses 25 ans, qu'il faudra sans doute également rénover d'ici quelques années. Et là, on est sur des budgets bien supérieurs à ce qu'annoncé aujourd'hui. Par exemple, le simple fait de rénover le quai qui permet au bateau polaire français, l'Astrolabe, qui amène toute la logistique à Dumont-Durville, va être entre 50 et 60 millions d'euros. Voilà. Donc, c'est des sommes absolument considérables qu'il va falloir faire. D'autant aussi qu'on n'a pas aujourd'hui, par exemple, de brise-glace de recherche d'État. Le seul petit navire d'État brise-glace, en fait, il fait que de la logistique entre Hobart, en Tasmanie, au sud de l'Australie et Dumont-Durville, plusieurs fois par an, pendant l'été là-bas. Et le reste de l'année, il fait de la patrouille de souveraineté dans l'océan Indien. Voilà. Donc, on n'a pas du tout la même ambition, par exemple, que nos voisins, on pourrait citer bien sûr les Allemands, on pourrait parler du budget de fonctionnement de notre agence polaire, par exemple, qui est trois fois plus grand pour les Allemands, ou encore le futur brise-glace polaire allemand, qui, fonctionnement compris, va s'élever à 1,2 milliard d'euros. Aujourd'hui, on essaye de trouver un budget pour un petit brise-glace français de recherche qui serait autour de 60 à 70 millions d'euros.
Mais est-ce que la solution ne réside pas, comme l'énonce Olivier Pavlavor, justement, dans une articulation des budgets budget et des financements européens?
Alors, sans doute, bien sûr. Et là-dessus, je pense qu'il faut accompagner l'effort de l'Union européenne qui s'est imposé comme un acteur arctique, malgré plutôt l'effet de frein des autres pays polaires, arctiques. Donc oui, c'est une des pistes. Effectivement, je suis impatient de voir ce que donnera le futur document, normalement l'été prochain.
Un mot, Olivier Poivre d'Avoir, sur ce troisième pôle que vous avez mentionné à plusieurs reprises dans cette émission. Ce troisième pôle constitué des glaciers qui traversent le monde, vous le pensez là aussi en articulation avec les deux autres pôles, le pôle Nord et le pôle Sud ?
Oui, d'abord juste, les moyens sont là. Ils n'ont pas été énoncés comme ça pour faire plaisir. Ils sont là, ils sont étalés sur 8 exercices, de 2022 à 2030, ce milliard. Et ils sont déjà dépensés, c'est le coût de fonctionnement de toutes les stations. Vous savez, ça coûte quelques dizaines de millions d'euros par station.
Alexandre Tête fait une moue dubitative.
Oui, mais parce qu'il ne connaît pas, c'est pas son boulot, et il fait ça très bien, ce qu'il fait. Mais moi, je sais qu'on est en train de lancer dans quelques mois le Michel Rocard, qui c'est le bateau qui... le petit brise-glace dont parle Alexandre, qui coûte 85 millions d'euros, donc il faudra bien... Quand on finance Tara, qui est aujourd'hui dans la mer, c'est 15 millions d'euros, et puis le Polar Pod, c'est idem. Quand on finance la rénovation du Mont d'Urville, qu'on estime aujourd'hui à pas loin de 120 ou 130 millions d'euros peut-être, ça sera financé, mais ça sera financé le jour où les études seront prêtes et au jour où on commencera les travaux. Donc, il faut vous rassurer, la France est quand même... un pays sérieux, et même malgré ces sujets de dette aujourd'hui, le milliard annoncé par Emmanuel Macron est tout à fait réel. Je pourrais vous fournir le détail des dépenses, évidemment. Sur le troisième pôle, là nous n'allons pas refaire le monde. Simplement, je pense que le sujet qui unit l'ensemble de ces questions, c'est en effet le sujet de la cryosphère, et c'est ça que nous avons voulu porter à la connaissance du reste du monde, en permettant qu'une décennie des mondes polaires et glaciaires, donc de la cryosphère, soit lancée aux Nations Unies. Vous savez, c'est pas fréquent que c'est en 2024, en août 2024, il y a eu une quasi-unanimité des membres des Nations Unies, donc elle a été retenue cette décennie pendant 10 ans à permettre que on traite la chose ensemble. Et c'est le meilleur moyen de réconcilier tout le monde. Très justement, Alexandre disait que nous sommes regardés par le monde arctique, le Conseil de l'Arctique, comme étant non pas des étrangers, mais des observateurs seulement. Mais c'est pas une raison pour ne pas mettre le pied à travers la porte. Tout ce qui se passe en Arctique a des conséquences ailleurs, donc on peut très très bien aller voir ce qui se passe en Arctique. Et on peut s'occuper aussi des pôles et des glaciers. Les glaciers, c'est une réalité française, européenne importante, et leur disparition... Je ne veux pas avoir l'air sombre, mais là, les chiffres, une fois de plus, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient ceux projetés en termes d'environnement, sont là. Les glaciers vont disparaître pour des dizaines de milliers d'entre eux d'ici la fin de ce siècle. Et donc, il y a urgence à mettre des moyens, il y a urgence à penser globalement ce sujet de la glace, qui n'est pas un sujet uniquement lié à l'émerveillement, à la beauté, à ces mondes extrêmes, mais qui est un sujet tout à fait existentiel pour plein de pays. Je pense notamment aux petits états insulaires, pour qui la fonte du Groenland, le vélage des glaciers en Antarctique, alors qu'ils sont à des milliers de kilomètres, signifie quelque chose.
Alexandre Tête, un mot sur ce troisième pôle.
Alors, en fait, pour conclure, moi j'aimerais bien peut-être attirer l'attention sur deux choses. Donc, sur les glaciers, en fait, vous avez un énorme glacier en mer d'Amundsen, dans la partie de l'Antarctique occidentale, aujourd'hui, qui va disparaître de manière certaine. C'est-à-dire qu'en fait, son coefficient entre sa recharge, qui est extrêmement réduite en Antarctique, il n'y a quasiment pas de précipitation. Vous avez des endroits à McMurdo où il n'a pas neigé depuis 1,5 million d'années. Et la manière dont ils font, parce que, en fait, l'océan austral se réchauffe et qui glisse progressivement vers l'océan, bien, rien que ce glacier, on est certain qu'il va disparaître dans plusieurs siècles. Ça peut être 3 siècles, 5 siècles, peut-être un peu plus, mais il fera augmenter le niveau des mers de 5,3 mètres. Ça vous montre l'étendue des changements, des bouleversements qui sont initiés. Et peut-être le deuxième point, moi c'est vraiment un appel au soutien aussi de la recherche en sciences sociales sur les pôles, et notamment bien sûr en Arctique. Aujourd'hui c'est quand même le parent pauvre, vous n'avez pas de postes à l'université. Et je pense notamment à tous les jeunes chercheurs qui ont soutenu des très belles thèses récemment et qui n'ont aucun poste dans la recherche publique française. Donc, ils partent à l'étranger, c'est très bien. Mais du coup, on a vraiment des jeunes prêts à travailler sur ces questions-là également.
Merci à vous deux d'avoir mis la lumière sur ces pôles, d'avoir participé également à cette dernière émission de l'année. Olivier Poivre d'Arvor, Alexandre Tête. Olivier Poivre d'Arvor, bon vent vers le Grand Nord. Et merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Maud Yaïch, Louise Mourfas, Diane Devancet, Louise Cognard à la réalisation, François Richer et aux manettes ce soir, Dalia.